c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et c'est donc la première grande hebdo de cette saison de Chute, on écoute la télé. Je suis ravi de vous retrouver parce qu'on va passer encore une saison assez dingue avec tous ces artistes qui vont venir eh bien nous visiter et passer un moment avec vous, avec nous. Et on va commencer très fort dans un tout petit instant avec toute l'équipe d'Astrid et Raphaël, puisque Lola Dever, Sarah Mortensen et Benoît Michel sont en ce moment même en train de s'installer à mes côtés. Nous allons passer également nos coups de cœur télé de la semaine avec Frédéric Bourali. C'est le grand retour de Scène de Ménage, vous le savez, pour une saison inédite. Et José, évidemment, sera avec nous. Renaud Roussel, dans le rôle de Sacha Girard, fait son retour également depuis la semaine dernière dans Demain nous appartient et va nous en dire plus sur ce retour totalement inattendu. On va parler également de Plus belle la vie jusqu'à l'arrêt de la série. Nous mettrons chaque semaine un comédien à l'honneur. C'est Rebecca Hampton qui ouvre le bal, qui incarne Céline Frémont, qui fait également son grand retour en cette rentrée. Et puis enfin, notre premier coup de cœur cinéma, il est sorti mercredi dernier dans les salles, mais on pouvait pas s'empêcher évidemment de l'évoquer. On va terminer l'émission avec eux, avec Franck Dubosc et Luna Espinosa. On va mettre Rumba la vie aujourd'hui à l'honneur, un film à ne pas manquer, il est déjà dans les salles. Alors voilà, allez-y, allez le voir, c'est le moment. Et puis on va tout de suite passer nos coups de cœur télé, c'est parti avec toute l'équipe d'Astrid et Raphaël qui débarque.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Troisième saison, et oui déjà, d'Astrid et Raphaël, quel bonheur de retrouver notre duo. Et en plus, pour la première fois, non seulement elles sont là toutes les deux en même temps pour ce lancement, mais elles ont amené aussi celui qui incarne Nicolas maintenant aussi. Alors Lola Dever qui est avec nous, bonjour ma chère Lola.
Bonjour Charles.
Merci d'être avec nous, Sarah Mortensen, habituée de l'émission aussi, quel bonheur de t'avoir également encore une fois.
Bah écoute, c'est toujours un plaisir.
Merci. Benoît Michel, alors écoute, on s'est eu je ne sais combien de fois par téléphone, parce qu'à chaque fois, évidemment, on suit tout ce que tu fais, mais là, c'est la première fois en vrai. Alors mon cher Benoît, bienvenue.
Merci beaucoup Alain, ça me fait plaisir aussi.
Merci d'être là tous les trois. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit, c'est la première fois que je vous ai tous les trois ensemble pour le lancement d'une saison, c'est un grand bonheur. Et en plus, Astrid et Raphaël, c'est une série qui fait du bien, il y a une base fan hyper forte qui s'est créée autour de la série, qui est assez incroyable. Des audiences, mais vraiment, mais au beau fixe, malgré toutes les embûches qu'essayent de vous mettre les autres chaînes, vous faire terminer leader à chaque fois. Franchement, ça vous fait plaisir, je suppose, Sarah.
Bah évidemment que ça nous fait plaisir, mais Astrid et Raphaël, c'est quand même un petit bijou. Donc oui, malgré des concurrences fortes et variées, on survit à chaque fois, donc c'est bien.
Voilà. C'est un cadeau quand une série vous tombe comme ça dessus, en quelque sorte.
Ah oui, clairement. Je le dis, j'ai jamais été aussi heureux sur une série que sur Astrid et Raphaël, quoi. Mais vraiment, c'est un bonheur.
Pour toi, Sarah?
Oui, c'est un cadeau cette série. Évidemment que c'est un cadeau. Déjà, j'ai rencontré Lola, j'ai rencontré Benoît. On s'entend tous hyper bien. Donc déjà, le tournage est très agréable. Et puis c'est bien écrit, c'est bien produit, c'est bien réalisé. Et voilà. Donc oui, petit cadeau.
Benoît, quand t'es arrivé au milieu de ce duo?
Ouais, moi je suis super content. Et puis en fait, des séries comme ça où t'as plein d'épisodes, ça nous permet de jouer pas mal de choses et de pouvoir développer nos relations de prendre le temps de le faire. Et contrairement à des téléfilms ou des films où on a une heure et demie pour raconter nos relations, là on a le temps de prendre notre temps, d'avoir des idées, de les proposer. Elles sont choisies ou non d'ailleurs, mais
une évolution en même temps de travailler les personnages sur plusieurs saisons, ça c'est aussi un véritable cadeau, surtout quand le succès est, est tel. Alors cette nouvelle saison, parce qu'au départ c'était mal barré quand même entre Astrid et Raphaël, hein, c'était mal barré quand même en, entre les deux. Et puis plus ça va, plus on a l'impression qu'elles deviennent mais totalement inséparables quoi.
Même indispensables. Même hein, c'est, je pense que Astrid pourrait pas. Je suis un peu comme un pilier émotionnel pour Astrid hein, et ça c'est devenu Astrid est devenue aussi un pilier émotionnel pour moi alors que qu'on pensait pas parce que Astrid est en fragilité, on la voit en tant qu'autiste dans ses fragilités. Raphaël c'est un peu moins perçu, c'est un peu plus voilà, mais du coup l'évolution de la série fait que on va se rendre compte que Raphaël va tenir le cap grâce à Astrid dans deux trois épisodes notamment où elle va être vraiment là pour du coup c'est elle qui d'un coup va prendre l'ascendant.
Sarah, comment tu définirais toi Raphaël?
Tout a changé pour Astrid. C'est-à-dire qu'on démarre sur une saison où on a quitté quand même Astrid qui n'a plus le droit de participer aux enquêtes de la brigade criminelle. Donc on ne sait pas si elle va pouvoir le faire ou pas. En tous les cas, la vie d'avant d'Astrid n'existe plus. Son tuteur est mort. Elle est donc en péril à la brigade criminelle.
Ses repères sont bousculés, clairement.
Elle en a plus du tout. Et donc, du coup, la seule chose qui reste stable, c'est Raphaël qui est elle-même un électron libre, donc c'est assez instable pour Astrid. Et finalement, ce qui est beau, c'est que son repère est devenu un incertain perpétuel, ce qui est quand même un grand progrès pour Astrid.
Tu te rends compte, Sarah, que tu deviens un modèle pour des milliers de jeunes autistes qui se retrouvent dans le personnage d'Astrid, que ça soit d'ailleurs des garçons ou des filles, mais moi j'ai rencontré des jeunes filles autistes d'ailleurs qui sont totalement fans de la série et auxquelles tu délivres un message hyper fort envers eux.
J'ai fait une rencontre au festival de Luchon quand j'y étais merveilleuse. Je suis allée à la projection de Andy Gang et j'ai rencontré parmi donc ce Andy Gang, il y a une jeune femme autiste qui s'appelle Angèle.
Et Angèle Roé, qui est une comédienne déjà incroyable.
Qui est démente et qui m'a dit que Astrid était devenue un repère pour elle et que elle avait besoin de cette série maintenant et qu'elle regardait beaucoup et c'est assez merveilleux. Et elle m'a fait le câlin le plus beau de la terre parce qu'elle m'a elle est venue dans mes bras et elle est restée très longtemps et ça a été un moment très intense. Et donc oui, ça c'est la meilleure des récompenses.
Allez, moi je parie que Angèle, on va la retrouver peut-être en saison 4. Tiens. Ça m'étonnerait qu'elle fasse pas une petite apparition un jour dans Astrid et Raphaël, du coup.
Écoute, je lui ai promis, donc elle le fera.
Ah, tu vois, voilà, je le sentais, tu vois, le nez. Benoît, quel a été pour toi les plus beaux moments de cette saison? Est-ce qu'il y a des moments qui ressortent, que ça soit devant ou derrière la caméra d'ailleurs? Je suis sûr que t'as des. Ah. Il y a Sarah qui me fait des petits signes qu'on ne voit pas à la radio, mais qui en veulent en dire beaucoup.
Ouais, mon histoire principale est quand même ma relation avec Raphaël, qui est quand même ma meilleure amie, mais on me voit avoir un penchant amoureux pour elle. Et mais j'essaie quand même de pas être que ça. Moi, je me suis un peu plaint auprès de la production que j'avais aussi envie d'avoir des vrais rapports avec le personnage d'Astrid, qui est pas que Raphaël, qui soit quelqu'un d'important pour elle et qu'on fasse aussi partie de sa famille, en tout cas des personnes qui la rassurent, qui l'écoutent, qui se comportent avec elle correctement, etc., et qui l'aident en fait. Et je pense que là, sur cette nouvelle saison, il y a eu une évolution par rapport à ça. Moi, je suis assez content de ça. Après, vis-à-vis de Raphaël, je vous dis rien, vous verrez bien comment ça se passe, mais si vous suivez la série depuis le début, vous savez qu'on va pas vous amener là où vous avez envie d'aller, donc ça va y aller petit à petit.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Exactement, un sacré nid.
Voilà, ça c'est dit. Bravo Lola, c'est parfait. Est-ce que toi t'as des meilleurs souvenirs aussi à nous raconter de cette saison?
c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours un bonheur de tourner avec avec eux tous. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est une famille de télé, quoi. Alors, ça nous prend quand même 4 mois et demi de l'année, donc souvent en interview, on nous dit, mais alors, est-ce que vous voyez, prenez des verres ensemble, machin, tout ça. Bon, on n'a pas le temps de se voir trop parce qu'on a tous des tournages qui nous appellent par mons et par vos, donc on n'arrive pas trop à se capter. Mais c'est vrai, pendant 4 mois et demi, on est vraiment tous ensemble tout le temps, et c'est vraiment, c'est comme une famille, quoi. C'est vraiment des liens familiaux qui s'installent avec des émotions fortes, des rigolades, des engueulades, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot cette série. Hein, ça va vite, ça va très vite.
Vous tournez les 8 dans la foulée, quoi. Il y a quasiment pas de pause entre les deux.
Il y a quasiment ou très peu de pause. Donc c'est, enfin, on sort de là, on est complètement lessivés, heureux, mais lessivés, quoi. Donc voilà. Donc on est un peu zombie un ou deux mois après. Puis après, mais moi je sais que, enfin, moi j'attends toujours. Ça se termine. Je me dis, ça y est, c'est dans la boîte. On a terminé. Maintenant on va passer à autre chose. Mais à un moment donné, à passer un mois et demi, je me dis, oh, il me manque. Alors que le dernier jour, je fais, salut les connards. Et j'espère qu'on va jamais se retrouver, hein. Ok, parce que vous m'avez fait chier. Et puis finalement, on se dit, quand est-ce que ça reprend là? Ça me manque trop, quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment très très révélateur. Ouais.
Et pour toi, Sarah, est-ce qu'il y a des meilleurs souvenirs sur cette saison aussi? Et après, attention, préparez, parce que je vais vous faire faire des listes de guests de cette nouvelle saison, et vous allez m'en donner au moins un chacun.
Oui, donc, des souvenirs. On a vécu des trucs très forts, on a eu très très froid sur le deuxième bloc. Oui, mais enfin là, on a quand même vécu une séquence sur un toit. On monte sur un premier toit, on se dit, oh, ça va, il fait pas si froid que ça. Et finalement, deuxième toit, on se dit, oh, on va pas pouvoir parler tellement il fait froid, on n'a plus de bouche, on n'a plus rien, plus rien qui fonctionnait. Mais c'est beau, voilà. Puis des rencontres incroyables. Pour répondre à la question des guests, moi j'ai un guest qui m'a particulièrement marqué, c'est Olivier Rabourdin qui fait un personnage très particulier pour Astrid, et qui avec qui il y a une alchimie incroyable en tournage. C'est un acteur que moi j'admirais déjà depuis très longtemps, donc j'étais très très fière de tourner avec lui. Et en plus, ça s'est extraordinairement bien passé. Et pour Astrid, voilà, elle a traversé plein de choses. Il y a plein de surprises, d'inattendus, et je peux pas en dire plus.
On va le voir comme ça dès vendredi avec cette nouvelle saison. Donc là, elle a ouvert le bal. Elle vous a laissé le temps, du coup, de préparer vos réponses. Alors Lola.
Alors Jérémy Covillo. Ouais.
Moi, c'est Bruno Volkovic. Qui a quand même bercé mon enfance, hein, parce que moi j'ai toujours regardé PJ, je suis un enfant de la télé, donc je la regarde vraiment régulièrement, la télé. Moi je la mate, et je suis toujours un enfant, et j'étais très content de le croiser, de jouer avec lui, avec sa voix grave là, et en fait il fait que des vannes tout le temps. Ça sortait de l'image que j'en avais de moi quand j'étais petit, quoi. D'ailleurs, il a pas trop aimé quand je lui ai dit je te regardais quand j'étais petit.
C'est pas toujours bien vu. Merci à tous les trois, on vous embrasse très fort et on vous dit à très vite.
Merci beaucoup, à bientôt, et soyez nombreux vendredi, on compte sur vous.
Merci Alain pour l'invitation, à bientôt.
Alors, il est là-bas encore, c'est ça?
Ouais, exactement. Il a été trouvé par des policiers qui ont été alertés par la réaction de leur chien, apparemment. Et elle, c'est la jeune femme qui s'accuse de l'avoir tué. Elle avait une énorme massue dans la main.
On a son nom?
On l'a pas encore identifié, mais je vous avoue que son discours est pas hyper hyper cohérent non plus.
Oui, puis sa tenue, c'est oui. Danse avec les loups.
Mais d'accord, c'est une tenue traditionnelle indienne, le truc. C'est...
Absolument pas.
Allez, ne bougez pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant. Frédéric Bourali, Rebecca Anton, Luna Espinosa, Franck Dubosc, tout ça en vrac, c'est dans un instant dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le Talk Show Radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé, la scène de ménage qui a fait son grand retour pour cette rentrée, bien évidemment, Frédéric Bourali est notre invité aujourd'hui, l'inoubliable et l'irremplaçable José, qu'on aime tellement dans notre émission. Frédéric, comment ça va?
Oh bah ça, bah, vu comment on parle de moi comme ça, évidemment ça va bien. Bah, c'est très gentil de dire tout ça, c'est très gentil. Oui, ça va très bien. Puis, moi, de toute façon, j'adore retrouver le public. J'adore être en contact avec le public, les voir les gens. J'adore ça. C'est un truc que j'ai pas souvent le temps, malheureusement, mais j'adore ça.
Alors, il faut dire qu'en cette rentrée, tu fourmilles de projets. C'est un truc de dingue. Scène de ménage qui revient. T'as participé à deux épisodes de la doc et le veto. T'arrives au théâtre, je crois, aussi dans les semaines qui viennent. Bref, c'est dingue cette rentrée-là.
Ouais, mais j'ai beaucoup de chance. Hein. Nous, on est très heureux quand on est débordé. Hein. C'est une chance extraordinaire. Oui, je prépare un très très beau spectacle. Enfin, j'espère. avec Christelle Reboul, c'est une super comédienne, mise en scène par Éric Logeria. Ce sera au Théâtre du Rive Gauche à partir du 20 janvier. Donc c'est dans 6 mois, mais je travaille déjà beaucoup dessus. Je travaille beaucoup sur le texte, déjà beaucoup, comme un fou, parce que c'est un énorme truc. On n'est que deux sur scène.
C'est toi qui l'écris ?
Non, non, ça a été écrit, c'est une adaptation d'une pièce anglaise, et c'est merveilleux, c'est un truc merveilleux. On rit, on pleure, c'est une histoire de couple, mais c'est merveilleux, vraiment. C'est assez extraordinaire à jouer. La barre est très haute, et donc on travaille beaucoup. C'est normal.
Que tu vas donc reconstituer avec Christelle Reboul, que les fans de Nos Chers Voisins, évidemment, ou encore de Ici Tout Commence, connaissent bien aussi.
Exactement, qui est une grande actrice de théâtre, mais une très très grande actrice. C'est une référence au théâtre, Christelle. C'est un Stradivarius, quoi.
Ah, j'ai une palette de jeux qui est incroyable.
Ouais, j'ai beaucoup de chance. Entre Valérie Cassanti et elle, j'ai quand même beaucoup de chance, je suis quand même gâté. À mon avis, ça vient de mon physique, bien évidemment.
Ah bah, non, mais tu les attires, ça se voit. Non, mais ça se voit.
Nous sommes d'accord. C'est marrant, je sens une sorte d'ironie là-dedans.
Mais pas du tout. Tu vas voir comme femme deux des plus grandes comédiennes, ouais, qui ont des palettes de jeux incroyables. Quand tu vois Valérie Carcenti dans Scène de ménage et que tu la vois dans Maison Close, ou que tu vois Christelle Reboul dans Nos Chers Voisins ou dans Ici Tout Commence, enfin, je veux dire, tu vois la palette de jeux que peuvent donner ces comédiennes. C'est génial de donner la réplique à des filles comme ça.
Ouais, bah c'est formidable. Donc voilà, c'est magnifique. J'ai un autre projet aussi que j'ai écrit avec François Ferroletto, qui est le mari d'ailleurs de Valérie Carcenti, qui est un super acteur. Tout un spectacle autour de Pierre Perret. On a rencontré Pierre Perret. Ça, c'était un magique, absolument magique. Qu'on va jouer. Alors après l'autre spectacle, on le prépare là, peut-être au Rive Gauche d'ailleurs aussi, à Paris. C'est un truc assez très personnel et à la fois très Pierre Perret, parce que Pierre Perret est un immense auteur, un personnage extraordinaire, et j'ai redécouvert toutes ses chansons, et c'est une référence dans la culture française. Je suis assez emballé par ce projet aussi au théâtre. Ah, voilà.
Il y a quelque chose qui est assez dingue, c'est dès que tu vas à la rencontre du public, dès que tu vas dans un festival, tout le monde t'appelle Monsieur le Maire, Monsieur le Maire.
Ouais.
Ça colle à la peau, hein. José Président bientôt.
Ouais, c'est normal. Les gens sont. Ils disent ça par gentillesse, par ironie, bien sûr. Alors on dit Frédéric, José, Monsieur le Maire, bien sûr. Vous savez, ça m'est arrivé de tourner il n'y a pas longtemps encore dans une mairie, mais à chaque fois que ça m'arrive, je suis très épaté. Une mairie en banlieue parisienne. Je suis arrivé dans le bureau du maire pour tourner, hein. Et il y avait la photo du maire, donc il y avait la photo de Macron, il y avait la photo de ses enfants, et il y avait ma gueule aussi, il y avait ma photo. Et je dis au maire, mais qu'est-ce que je fous là ? Alors évidemment, c'était pour déconner, hein. J'étais avec l'écharpe et tout. C'était pour s'amuser, bien sûr, c'est par dérision, bien évidemment. Moi, j'ai aucune velléité de quoi que ce soit.
Mais tu t'amuses follement dans ce rôle de José. On le sent que vous vous amusez vraiment, mais tellement, et que les auteurs, n'arrivent pas à tarir vraiment ce qu'ils ont pour vous à vous écrire, ça n'arrête pas, quoi.
Oui, on est très gâtés. Bah, ils sont une vingtaine, 20, 25 auteurs. Hein. On est très gâtés par eux. Et puis en plus, on est vraiment en travail avec eux. C'est-à-dire qu'on choisit les textes avec eux. On est vraiment en osmose avec eux, complète. Puis on a plein d'autres. On s'est vu il n'y a pas longtemps, là, pour choisir ce qu'on allait faire l'année prochaine. En plus, ça, c'est un luxe extraordinaire. Et il y a plein d'idées assez merveilleuses, de trucs qu'on va tourner, qui me font rire rien d'y penser. Je ne peux pas vous dire quoi, bien sûr, vous allez le découvrir. Mais qui me font rire sur toute l'année, là, qui nous ont fait beaucoup rire. Bah, c'est comme ça qu'on avait décidé, pour que José soit maire. Par exemple, on s'est dit, tiens, et s'il devenait maire, tout ça téléguidé par Liliane, bien sûr, c'est ça qui est rigolo.
Oui, évidemment.
Et là, on a décidé d'un autre truc, là, d'un truc assez fort, enfin, qui nous fait rire, nous. Après, j'espère que ça fera rire les gens encore, mais qui est assez fort. Donc voilà, donc je suis très impatient de repartir en tournage. Alors, on ne va pas tourner avant septembre, là. On a tourné beaucoup en stock, quoi, pour stocker. Là, pendant l'été, comme tous les ans, c'est arrêté, c'est normal.
Comme la diffusion s'est arrêtée, d'ailleurs, tout au long de cet été.
Voilà.
Il y a des surprises à venir pour cette nouvelle saison. Est-ce qu'il va y avoir des primes qui vont se tourner? Est-ce qu'il y a des surprises qui attendent les téléspectateurs?
Bah, ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver, ça c'est sûr, dans les trucs quotidiens. Mais il y a un prime aussi. C'est embêtant parce que je ne peux pas en parler, mais il y a un prime si on le fait, celui-là. Si on le fait. Mais là, mais ça, j'en rêve. Ça, c'est un grand cadeau en tant qu'acteur de pouvoir faire ça. Si on le fait, c'est génial. Après, il faut des histoires d'accord. C'est dans un lieu particulier. Voilà, c'est juste une histoire administrative pour l'instant. Mais c'est bien parti pour. Et on devrait tourner ça au mois d'octobre pour le diffuser comme prime.
Noël ou en début d'année.
Au début d'année prochaine, ouais. Ça, vraiment, c'est pareil. Ils ont trouvé une idée, les auteurs, mais qui est tellement drôle. Ils m'en ont parlé au téléphone. J'ai éclaté de rire de l'idée même d'imaginer José Lillian dans ce milieu-là. Qui est un milieu, voilà, qui a rien. Enfin, que tout le monde connaît, hein. Je peux pas vous en dire plus. Mais eux, là, c'est quelque chose de, voilà, c'est très, donc on a beaucoup, souvent on se dit ça avec Valérie Carsanti, on se dit on a quand même beaucoup de chance, en tant qu'acteur, d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Cette liberté-là, cette folie-là, c'est pas partout qu'on peut le faire, bien sûr. C'est normal. Tout est possible avec José Lillian. Et avec, en plus avec cette production, tout est possible. Et d'ailleurs, on fait le tout. Voilà.
Alors, j'ai une anecdote à te raconter, Frédéric. C'était le 10 avril dernier. C'était un dimanche. On avait invité à présenter le deuxième épisode de Doc Helvéto en avant-première chez nous, sur Sainte et Royan, dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine. Et ce jour-là, on était en train de déjeuner le midi. Et ils étaient en train de discuter d'un rôle qu'ils cherchaient. D'un seul coup, Dounia dit, mais moi, je sais qu'il vous faut, Michel aussi. Enfin, tout le monde, on se met tous autour de la table en disant, mais oui, ça serait une super idée. Tout de suite, il décroche le téléphone et l'affaire se fait en moins de 5 minutes. C'était assez incroyable, puisque là, mais en fait, tu as tourné dans le troisième et quatrième épisode de la Doc Helvéto, et donc tu fais ton arrivée à Villerande-les-Chanterelles.
Ah ouais, mais ça c'est extraordinaire, je me souviens très bien, c'est rigolo quand même quand on se croise là aujourd'hui. Bah ouais, j'étais dimanche peinard chez moi, tranquille en pyjama, peut-être pas en pyjama à cette heure-là, je sais plus. Moi j'ai peinard, et là je reçois le coup de fil de Doudounia, que j'adore bien sûr, et de Michel Simès, qu'on venait de tourner ensemble un truc en Belgique avec Paul Wort, etc. C'est un mec formidable, hein, Michel Simès, c'est un mec vachement bien. Et quand ils m'ont appelé pour me proposer ce rôle-là, je savais pas que t'étais dans ce coup-là, dans cette espèce d'arnaque.
Si, on y était.
J'ai dit oui tout de suite, et qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que quand je suis allé tourner...
T'as vu, les paysages sont merveilleux. Hein.
Non mais les paysages, c'est une chose, mais ce que j'avais à y faire, c'était, je me suis passionné, on s'est amusé, j'ai inventé...
Toujours quel rôle, tiens.
C'est un personnage un peu particulier, j'en ai fait une sorte de complotiste, il pense qu'il sait tout, il sait rien du tout, il pense qu'il est au courant de ce qui se passe un petit peu, dans les choses un peu graves. Mais
ouais, c'est un peu la théorie du complot, quoi, voilà. Le personnage.
Mais drôle, enfin drôle, j'ai essayé. Mais en tout cas, ça s'est merveilleusement bien passé. Ils m'ont rappelé tous, ils veulent tous que je revienne et tout. Donc...
Oui, parce qu'il est question qu'il soit récurrent ce personnage, parce que c'est un habitant du village finalement.
Dans les villages, et en plus, moi j'ai mon pote Pacou, je connais plein de gens sur le tournage, que des gens merveilleux. Merci du cadeau. Merci du cadeau, franchement.
On verra ça en 2023, évidemment, avec le troisième et quatrième épisode de la Doc Helvéto. Frédéric, on te retrouve dans Scène de Ménage. Ça, en tout cas, c'est immédiat. Et c'est tous les soirs à 20h30 sur M6. Et franchement, on se délecte de vos aventures tous les soirs, mais tellement avec bonheur et rire, qu'on ne s'en lasse pas, même après 12 ans. Hein.
Après 12 ans. Bon,
bah, écoute, c'est génial. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Et puis, on te dit à très bientôt.
Bah, c'est moi qui dis merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.
Attention, c'est parti.
La saison de tous les dangers.
C'est quoi ce bordel ?
La saison de tous les amours.
Ah là là.
Quoi ? Tu nous fais ça ?
Et la photo toi à quoi là ?
Huguette.
Oui.
Veux-tu m'épouser ?
La saison de tous les possibles.
Tu es en moule bite, mon amour. En moule bite.
Bonne ambiance ?
Mais oui, bonne ambiance, évidemment.
Scène de ménage, nouvelle saison sur M6.
On va parler Demain nous appartient pour cette rentrée également, une rentrée sous haute tension, puisque, eh bien oui, Sacha Gérard is back, on l'attendait depuis plusieurs mois. Il était en prison, mais eh bien là, il se fait la malle quand même. Et Sacha est de retour sous, évidemment, l'égide du comédien Renaud Roussel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Renaud.
Bonjour
merci
tout le monde.
Merci d'être avec nous. Renaud, c'est un personnage qu'on a adoré détester, évidemment, puisque au départ, on l'a adoré, on a vu qu'il avait des... c'était compliqué, quand même. Et puis finalement, eh bien, c'est le survivant de cette famille un peu disloquée, évidemment, enfin, cette double vie qu'il menait, pour ceux qui ont suivi la série. Là, t'as dû être content de pouvoir faire ton retour, de pouvoir encore reprendre et réendosser ce rôle.
Alors écoute, oui, bien sûr, moi je suis toujours content de reprendre un personnage aussi complexe que celui de Sacha, parce que effectivement c'est un personnage très très complexe qu'il a fallu travailler de manière un peu spéciale par rapport à d'autres personnages, évidemment. Mais oui, bien sûr, je suis très 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 heureux de revenir dans la série qui me rappelle. Je m'y attendais un petit peu aussi, parce qu'à partir du moment dans ces séries-là, nous ne sommes pas morts.
On peut toujours revenir un jour. Mais franchement, quand t'es arrivé il y a quelques années, tu t'attendais à ce que ton personnage voyage pris cette direction là, les auteurs quand ils ont discuté avec toi et qui t'ont dit voilà, on va lui faire vivre une destinée assez hors du commun, là tu t'es dit quoi, tu l'as vécu comment toi, parce que t'as eu des scènes mais notamment avec Clémentine Doucet, enfin c'était dingue avec Linda Hardy.
Alors pour tout avouer, ma femme n'est pas très loin de moi, là, elle est ici, elle est en train d'écouter l'interview. Elle a bien compris la colère que j'ai quand on m'a proposé de changer de direction du personnage. Et oui, au début, ça a été un petit peu difficile à digérer parce que on m'avait pas prévenu, j'étais pas au courant que ce personnage allait devenir un peu psychopathe. Et au fur et à mesure, je l'ai travaillé d'une certaine manière, qui fait que maintenant, c'est devenu jouissif à jouer.
Et j'ai peur que ça soit un peu trop ressemblant à celui que tu avais incarné dans Plus belle la vie, par exemple.
Alors, oui, déjà effectivement, j'avais l'impression, en plus c'est la même boîte de production, donc je me suis dit à un moment, merde.
Ils ont envie de faire jouer des rues comme ça.
C'est pas possible, quoi. Et au final, j'ai compris que c'était plus profond, qu'ils cherchaient quelque chose, ils cherchaient une certaine direction, voilà, et puis ils sont partis sur celle-ci. Donc, au début, j'étais un petit peu décontenancé, et puis finalement, Tonnerre, je crois que c'est le genre de rôle que j'aime jouer, quelque part aussi. C'est des rôles un peu complexes, et ce métier-là, il est vraiment intéressant quand on commence à travailler ce genre de personnage aussi, quoi. Donc je suis très heureux. Ouais.
Alors effectivement, tu disais, tant qu'il n'est pas mort, tout est permis, tout espoir est permis. Là, effectivement, il était en prison, Sacha. Donc là, on redémarre une arche pour toute cette rentrée. Justement, on va découvrir effectivement que Sacha n'en a pas dit encore son dernier mot.
Non, il n'a pas dit son dernier mot, il a perdu 10 kilos. En un an, il a laissé pousser la barbe, il a laissé pousser un peu les cheveux, et puis voilà. Mais bon, effectivement, comme tu dis, il n'a pas dit son dernier mot, mais il sera pas tout seul. Il sera pas tout seul pour cette évasion.
Alors, on a commencé à voir, à te revoir là à l'antenne. Tout le monde n'est pas de retour, hein, quand même, hein, dans la famille Girard. Hein, il faut le comprendre. Il y a Gaspard, Mathilde Le Brequier qui est de retour aussi avec toi. Tes deux autres enfants, pour l'instant, ils restent dans le Nord.
Absolument, ouais. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Ouais.
Bon, cette arche, comment tu l'appréhendes? Comment tu l'as appréhendé, en tout cas, cette arche qu'on va découvrir? C'est une évasion, en fait. Ça s'appelle évasion, je crois.
Oui, oui, c'est ça, oui. C'est une évasion. Je l'ai appréhendé par une transformation un peu physique. Donc, je me suis préparé un peu physiquement. Je vais préparer le personnage aussi à se transformer pendant la série. Et puis voilà, a priori, moi, le personnage...
C'est un retour ponctuel, pour l'instant?
Pour l'instant, c'est un retour ponctuel, effectivement.
Bon, donc, on est parti pour un mois, à peu près, pour te voir à l'écran sur cette grande arche.
Mais un mois d'une belle intensité, je pense.
On va vivre des bons moments, donc.
Certainement.
des moments intenses. Alors, raconte-nous, en dehors de Demain nous appartient, est-ce qu'il y a des choses que tu as tournées, dans lesquelles on va te voir aussi prochainement? Tu as des projets?
J'ai fait une petite pause d'un an pour m'installer dans le sud avec ma famille, m'installer à Sète. Donc, j'ai fait d'autres choses. Je suis parti sur autre chose que la comédie, que l'acting.
J'avais besoin aussi de te recentrer, peut-être, avec tout ce que tu avais vécu, avec tout ce que tu avais mis dans ton personnage, parce que c'était quand même dur, hein, les mois qu'on a passé avec Sacha Girard, à pas savoir trop où on allait. Nous, en tant que téléspectateurs, j'imagine que toi, en tant que comédien, t'as dû avoir besoin d'une soupape, quoi.
Absolument, il a fallu un petit moment pour sortir du personnage, pour revenir un peu à la vie réelle, pour reprendre un peu sa vie en main aussi. Enfin, voilà, donc oui, il m'a fallu un petit peu de temps, ça m'a permis de souffler, de me retrouver, de me recentrer. Puis voilà, puis à côté de ça, bon, moi j'ai fait d'autres choses, j'ai fait plutôt du doublage, puis j'ai monté des affaires, enfin je me suis occupé de moi, voilà, cette année. Mais je suis très très heureux en tout cas de repartir sur le personnage de Sacha.
Alors le choc pour les téléspectateurs, c'était quand même la mort de Clémentine Doucet. Il y a eu des scènes hyper violentes, hyper difficiles à jouer. Comment vous avez appréhendé ça tous les deux avec Linda, qui disait dans une interview, heureusement que c'était avec Renaud, qu'on se connaissait bien, que voilà, parce que c'était quand même dur à jouer pour vous deux.
C'était très dur à jouer, pour moi un peu plus jouissif certes, mais non mais c'est oui c'était jamais évident. Moi j'ai été très déstabilisé par l'intrigue, par le fait de le jouer, de jouer sa mort. Ça a été très difficile, hein. Mais ma femme en a pâti un petit peu à la maison, quoi. C'était quelque chose qui m'a retourné un peu, qui m'a mis parce que de toute manière le personnage était en colère, donc il fallait que je sois aussi un petit peu au fond de moi, et ça n'a pas été facile à vivre pour tout le monde, et je m'en excuse auprès des personnes concernées.
Bon, pendant un mois en tout cas, on te voit à l'écran. Quelle direction, sans nous dire évidemment ce qui va se passer et l'issue de ce mois qu'on va vivre avec toi, quelle direction t'aimerais que ton personnage prenne si les auteurs t'entendaient là?
Ah, moi, la prison, l'évasion, la prison, l'évasion, la prison, l'évasion, moi, ça me va très bien. Moi. Ah, moi, j'adore ça.
Une intrigue à la prison de break.
Ah ouais, voilà, le gars, chaque année, il sort et puis on le ramène. Chaque année, il sort, on le ramène. Moi, ça m'irait bien parce que je ne le vois pas changer, Sacha. Je vois qu'il a tellement vrillé maintenant et que vous allez voir, je pense, dans l'intrigue qui vient, là, actuellement, que c'est un non-retour pour Sacha. C'est quelqu'un qui ne peut pas redevenir. Ou alors...
Oui, l'intrigue s'appelle pas rédemption, hein, ça c'est clair.
Ouais, voilà, exactement. Et du coup, je sais pas, moi que peut-être, je sais pas, il soit plus en prison et qu'il vive sous une autre identité, ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, moi je laisse l'imagination des auteurs, je leur laisse réfléchir à ça. Moi c'est pas trop mon... Voilà, moi je vis ce qu'on me donne à jouer, tout simplement.
Et ben on va vivre en tout cas quelques semaines intenses avec le retour de Sacha Girard dans Demain nous appartient. Merci beaucoup Renaud d'avoir été avec nous pour cette rentrée. Coup de cœur télé pour Plus belle la vie aussi et pour du théâtre puisque eh bien aujourd'hui Rebecca Hampton est notre invitée. On va parler théâtre avec Boudère puisque vous la retrouvez sur scène à partir de janvier et puis on est en train de vivre aussi bien sûr les dernières semaines de Plus belle la vie et on a envie eh bien justement de parler avec tous ces comédiens qui nous ont accompagnés pendant tant d'années mais eh de ce qu'ils font aussi à côté. Alors bonjour Rebecca et merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, bonjour et puis surtout un grand merci parce que c'est vous qui nous avez accompagnés pendant toutes ces années. Faut pas mettre les choses à l'envers, c'est grâce à vous si on a duré aussi longtemps. On essaye de faire les choses bien, de faire les choses le plus joliment possible, en pensant beaucoup, 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 beaucoup aux téléspectateurs. Et puis voilà, d'essayer de faire une fin qui soit pas trop, trop douloureuse, ni pour nous, ni pour vous. Voilà.
Ni pour le public, effectivement, parce que le public, c'est très dur, cette nouvelle qui a été apprise. On va d'abord parler du théâtre, parce que voilà, j'ai envie qu'on démarre sur une note positive. Et il y a une belle aventure qui t'attend, avec un comédien humoriste qu'on adore. Nous, qui était sur du one man show et qui se lance là, bien apparemment au théâtre avec toi, c'est Boudère. Qu'est-ce qui va nous attendre? Raconte-nous, ça démarre en janvier.
Alors ça va démarrer en janvier, c'est une pièce complètement dingue, écrite par Guillaume Mélanie et Jean Franco, avec qui j'ai déjà travaillé, puisque j'ai fait Panique au ministère, sauf que là c'est une création. Alors je fais le pitch un peu rapidement, c'est une wedding planeuse en fait, qui doit absolument faire ce mariage, elle est surendettée, il faut qu'elle paye les pattes de son père. Enfin, c'est vraiment un gros boxon qui arrive pour elle et elle a besoin de ce mariage. C'est un gros gros mariage très bourgeois et son assistant c'est Boudère. C'est Serge.
Ça va promettre.
Voilà, il s'appelle Serge, donc c'est Jeanne et Serge. On peut chanter même quand on veut et qu'on entend Jeanne et Serge, on a le droit parce qu'on va le faire pendant la pièce. Et en fait, voilà, il faut qu'elle aille au bout de ce mariage. Et évidemment, rien ne va se passer comme elle le souhaite et comme il le souhaite, puisqu'ils forment une équipe, un duo. Et ça va être vraiment de rebondissement en rebondissement. Ça s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Et je pense que même avec beaucoup d'imagination, on n'aura jamais celle de Guillaume Mélanie et de Jean Franco.
Alors vous êtes déjà rencontré avec Boudère, évidemment. Les répétitions, les essais, certainement, etc. Comment ça s'est passé?
Et c'est un homme absolument charmant, délicieux, d'une galanterie incroyable. Et c'est quelqu'un qui met à l'aise tout de suite.
Ah, c'est une belle aventure qui va démarrer donc pour vous deux sur cette pièce. Vous serez que tous les deux? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes?
On est plusieurs. Alors on a des comédiens qui font plusieurs rôles. C'est vrai que Boudère et moi, on tient notre rôle à nous.
T'es aussi très absorbé par les derniers tournages de Plus belle la vie qui vont continuer pendant tout le mois de septembre aussi. Donc on peut dire que c'est une rentrée hyper chargée quand même. Hein.
Alors c'est une rentrée très chargée professionnellement parlant et aussi humainement parce que c'est une nouvelle rentrée pour ma fille à Paris qui commence dans une nouvelle école. Donc c'est une école absolument magnifique avec une mentalité géniale. J'espère qu'elle y sera heureuse parce que c'est un grand chamboulement et on va essayer de le faire avec le plus de bonheur possible. Voilà, il faut que la vie soit heureuse.
Et oui, parce que alors toi, tu étais installé à Marseille, évidemment, hein, depuis 18 ans, Plus belle la vie. Demander à beaucoup de comédiens de s'installer à Marseille pour plus de praticité déjà. Puis franchement, la vie est belle au sud, hein, faut le dire.
On va dire que la vie était plus belle dans le sud. Après, moi je suis parisienne, donc c'est vrai que j'ai dit à un moment donné, il va falloir qu'on rentre à Paris. Et ce à quoi ma fille de 8 ans, elle en a 9 maintenant, mais elle en avait 8 le 5 mai, ma fille m'a dit, mais non maman, elle me dit, toi tu rentres à Paris, mais moi je vais à Paris, parce que ma fille est marseillaise. Donc voilà, donc c'est compliqué, mais je évidemment je pense pense à ma fille parce que je suis maman, mais je pense aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pendant toutes ces années, à qui je fais d'énormes bisous, et je leur dis de ne pas être trop tristes, parce que de toute façon, on est là. Alors peut-être les personnages de Plus belle la vie n'existeront plus, mais nous, les comédiens qui les avons interprétés, on sera là dans d'autres choses, avec toujours autant d'amour, et en tous les cas, on sait les remerciements qu'on doit à tous ces gens, et tout le bonheur qu'ils nous ont apporté, parce que j'espère qu'on en a apporté, mais eux nous en ont apporté tellement pendant 18 ans que c'est un grand merci que j'ai envie de leur donner.
Et t'as vécu des séances de dédicaces mémorables? Ça a été dingue tout ce qui s'est passé. Si tu veux évoquer quelques souvenirs de ces 18 ans, là je suppose qu'avec Serge Dupire, avec qui t'as partagé mais tellement de scènes, par exemple, vous avez dû avoir des fous rires tous les deux par moment, il y a dû y avoir des moments d'anthologie.
On a eu des fous rires avec Serge énormes, avec Laurent qui est rusoré aussi, des fous rires énormes, parce que Laurent est quelqu'un que j'aime particulièrement et qui me fait beaucoup beaucoup rire sur un tournage. Et j'ai forcément une pensée, alors pardon parce que c'est pas très, très joyeux ce que je vais dire, mais j'ai une pensée pour Colette Renard, parce que Mademoiselle Renard qui était avec nous au début et qui était d'une humilité incroyable, qui est arrivée sur ce plateau en nous disant: je ne sais pas, je ne suis pas vraiment comédienne et j'espère que je serai à la hauteur de ce que vous attendez de moi. Voilà, c'est quand même une femme qui a marqué cette série, qui était là avec nous au début, et moi je ne peux pas terminer cette série sans penser à Colette, parce que pour moi c'était la doyenne de notre série et c'était un peu le petit soleil de notre série. Voilà.
C'était le symbole du début aussi de la série, il faut le dire. On peut penser aussi à Pascal Robert qui a été incroyable dans le rôle de Vanda. Voilà, les personnes qui ont ensoleillé quand même le Mistral.
Et puis c'était des personnes qui forcément étaient d'une autre génération, qui avaient une autre mentalité. Moi, pour la petite anecdote, parce que ça me fait sourire, mais un jour j'étais en train de me changer dans les espèces de petites loges qu'on a, et puis à un moment elle me dit mais Rebecca, mais donc je parle de Colette, elle me dit mais Rebecca, mais qu'est-ce que tu fais? Donc je dis mais Colette, je me change, mais qu'est-ce que tu caches? Ben, je dis mais Colette, en même temps je me déshabille. Elle me dit oh, elle me dit pourquoi? Elle me dit vraiment, tu penses que tes fesses sont plus intéressantes que ton nez? Elle dit mais enfin, elle me dit ma chérie, n'attends pas d'avoir mon âge pour montrer tes fesses, montre-les maintenant. Et ben voilà, pour moi c'est quelque chose que je garde et qui me fait sourire, et c'est vrai que je peux pas ne pas avoir une pensée pour Colette tout le temps, parce que je sais qu'elle nous accompagne et qu'elle est là, et qu'elle aurait été très malheureuse que ça se finisse comme ça.
Bon, en tout cas, cette rentrée, Céline est de retour au Mistral, et puis alors, pas qu'un peu.
Elle est bien bien de retour et je suis très heureuse d'être là. J'avais peur de ne pas pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs, je suis là, je vais leur dire au revoir comme il se doit, et surtout je vais dire au revoir à ce personnage, et je pense que peut-être d'ici quelques mois, on fera l'essai, essayez si vous voulez, mais peut-être que quand j'entendrai Céline crier dans la rue, je ne me retournerai plus. Ça fait quand même 18 ans quand j'entends Céline, je me retourne.
Tu crois que ça m'amène combien de temps?
Mais je ne sais pas, justement je vous dirai, la prochaine fois je vous dirai si ça s'est calmé ou pas, mais c'est vrai que c'est un réflexe, j'entends Céline, je fais oui, mais c'est pas moi, non je m'appelle Rebecca, il faut que je me récupère complètement et ça ira mieux après.
Bon, le tournage du Prime aussi, du dernier Prime est bas son plein aussi. On peut imaginer que évidemment Vincent Chomette va être de retour aussi, et que ces deux-là n'ont pas fini encore de nous étonner, certainement pour cette fin.
Non, je pense qu'on n'a pas fini de nous étonner, on n'a pas fini de nous surprendre nous-mêmes. Et puis on est... Alors je me permets de parler pour Serge, mais je pense qu'on est assez proches pour que je puisse le faire. On est très heureux de tourner ensemble. Et voilà, cette aventure, elle a commencé... Elle a commencé avec nous deux, pour nous, et puis elle finira avec nous deux pour nous, ce qui est, je pense, assez joli.
Exactement, c'est très très beau en tout cas. J'espère plein de projets, tu sais Rebecca, la porte pour les comédiens de Plus belle la vie qui nous ont toujours dit oui, qui n'ont jamais refusé une interview, qui ont toujours été là pour nous, parce que même si nous on a été là pour vous, vous avez été là pour nous aussi, et quand on a demandé, voilà, jamais personne nous a dit non, au contraire, et on sera toujours là aussi pour vous accompagner dans des projets, que ce soit au théâtre, à la télévision. Voilà, on vous passera les coups de fil, mais on sera là pour vous emmerder à chaque fois que vous ferez quelque chose de bien.
Mais alors surtout, emmerdez-nous, comme vous le dites, autant que vous voulez et le plus que vous voulez. Moi, je voulais juste dire que peut-être que dans ces épisodes qui arrivent, il n'y aura pas tous les personnages que vous avez connus depuis le début. Mais en tous les cas, tous ces personnages ont vraiment fait partie de Plus belle la vie, ont vraiment fait Plus belle la vie. Et il n'y aura jamais de toute façon de Plus belle la vie sans ces personnages-là. Donc on pense à eux, et moi j'embrasse les comédiens et les comédiennes qui ne pourront pas tous être là, Mais quoi qu'il en soit, sans tout le monde, il n'y aurait pas eu Plus belle la vie. Donc du plus petit rôle, celui qui a fait 2 heures, à celui qui a fait 18 ans, moi je les remercie et je nous souhaite à tous et à vous une longue vie.
Merci beaucoup Rebecca, on te dit à très vite et on te retrouve au théâtre à partir de janvier, donc avec Boudère pour le meilleur et pour
pire.
Et ben voilà, on va dire ça comme ça. Merci à toi et on te dit à très bientôt.
Le rendez-vous des stars. Et Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, dernière partie de Chut, on écoute la télé dans un instant avec Franck Dubosc et Luna Espinosa. On va parler de la sortie du film Rumba la vie depuis mercredi dernier dans les salles. Alors bougez pas, tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. La télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné, c'est le premier de cette rentrée. Quel bonheur en plus d'avoir cette équipe avec nous, Luna Espinosa et Franck Dubosc pour Rumba la vie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi j'ai découvert Luna dans les bracelets rouges, évidemment, comme beaucoup des téléspectateurs. Franck, première des choses que j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite dans Luna pour pouvoir justement lui proposer ce premier rôle dans votre nouveau film ?
C'est sa fragilité. Enfin, quand elle joue, c'est l'émotion qu'elle dégage quand elle joue. Moi, je l'ai vue, je cherchais des jeunes filles plus âgées, plutôt de 27 ou 28 ans. Puis un jour, puis au milieu des premières vidéos qu'on m'a montrées comme ça de jeunes filles, avant que je les rencontre vraiment, il y avait une petite jeune fille de 19 ans qui était au milieu. Et là, j'ai fait ça, comme on fait, reviens en arrière. Et cette jeune fille, donc Luna, elle m'a ému. Je me suis dit, mais j'étais même fier ou flatté d'avoir écrit les mots qu'elle disait, parce que je les entendais pas comme je les avais écrits. C'est-à-dire qu'elle les rendait plus jolies que ce que j'avais écrit. Donc je me suis dit, c'est complètement, quand on cherche une actrice ou un acteur, c'est exactement ça qu'on veut. C'est quelqu'un qui rend meilleur ce qu'on a écrit. Et j'ai voulu la revoir. J'ai revu 4-5 fois comme ça. J'avais très hâte de la voir en vrai après avoir vu ses vidéos, et puis voilà, j'ai continué à voir d'autres jeunes filles pour voir, et c'était elle qui restait dans ma tête par sa sensibilité, sa fragilité, son émotion, et après elle restait à travailler la force, puisqu'elle joue une professeure de danse de gens plus âgés qu'elle, mais ça je savais qu'elle saurait le faire. J'ai vu tout de suite qu'il y avait au-delà d'une actrice, un vrai un être humain adorable, digne d'adoration. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on a envie de... Je l'avais pas vu dans Les Bracelets Rouges, moi.
Elle transperce l'écran en tout cas, Luna. On va en parler avec toi. Vous êtes absolument formidables tous les deux. On va y suivre dans ce film Rumba la vie. Tony, qui vit seul, chauffeur de bus, et qui après une crise cardiaque, un accident cardiaque, va devoir essayer de retrouver son passé, puisqu'il a laissé 20 années derrière lui, et une fille qui va tenter de retrouver, de reconquérir surtout. C'est aussi cette reconquête qu'on va suivre dans ce film. Luna, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le personnage de Maria, toi ?
Je pense que ce qui m'a plu, c'était le fait qu'elle puisse être à la fois très dure, avec un gros caractère, et en même temps très sensible malgré elle. En fait, qu'elle laissait vraiment cette double face qu'on puisse voir dans le caractère du personnage.
Ouais, il y a une certaine sensibilité, à la fois il y a du caractère qui émane quand même de ce personnage à travers la danse, notamment. Alors vous avez été coachés tous les deux par quand même, alors je sais plus si c'est triple ou quadruple championne de danse avec les stars de Nizza Ikonomova. Alors évidemment, ça aide un petit peu, mais comment vous avez vécu un petit peu ces entraînements de danse tous les deux, Franck ?
Moi, j'ai moins je me suis moins entraîné que Luna, un petit peu, oui, puisqu'on avait une danse à faire tous les deux et tout ça. Bah, comme Denitsa, je lui ai parlé du projet avant de l'avoir écrit. Je lui avais dit, je vais faire quelque chose sur la danse, si tu vas m'aider. Je l'avais rencontré grâce à François-Xavier de Maison. Et donc voilà, donc c'est une copine, elle est très, je savais que Denitsa, parce qu'elle fait danser avec les stars, avait cette pédagogie, pouvait apprendre à quelqu'un qui ne sait pas danser. Et puis elle est tellement positive qu'elle est une grosse clé du film, Denitsa, même si elle n'est pas dans le film, elle est une grosse clé du film. D'abord, elle était conseillère aussi technique et artistique, puisqu'on part faire les championnats du monde à Blackpool. et que elle les a fait elle, donc elle connaît le truc. Elle... Non, non, Yava, c'était vraiment un partenaire, et puis elle s'est super entendue avec avec Luna, ce qui était formidable, parce qu'il n'y avait pas ce côté prof chiant où je pense que Luna aimait aller faire les cours, elle va en parler elle-même. Mais donc il y avait, c'est vraiment un élément important, Danitza. Et moi, j'essayais d'être bon élève, voilà, mais j'essayais aussi de la faire rire pour décontracter le tout, parce que je suis pas non plus le plus doué des élèves, mais j'ai beaucoup dansé au cinéma ou sur scène.
Elle a une grande sensibilité en plus, Danitza, qu'elle t'a apportée, je suis sûr, Luna.
Bien sûr, elle a, comme disait Franck, elle a une très grande pédagogie, donc apprendre avec elle, même quand parfois c'était difficile, et ben c'était vachement intéressant, c'était vraiment cool. En fait, elle m'a donné l'envie même de danser, et puis au-delà de m'avoir appris à faire des chorégraphies, elle m'a appris aussi à avoir une certaine posture quand on est danseuse ou prof de danse, ou même comment parler, diriger un cours, avoir une espèce de présence en fait qui domine un cours, et ça elle me l'a appris, et c'était super.
On va écouter la bande-annonce, Rumba la vie. Quel bonheur de voir ce nouveau film de Franck Dubosc, tout plein de sensibilité. Moi, j'avais beaucoup aimé Tout le monde debout, hein, déjà, il faut le dire, mais là voilà, on a vraiment un film de retrouvailles entre un père et sa fille. Je vous conseille vraiment, c'est notre premier coup de cœur ciné de cette rentrée. Écoutez la bande-annonce.
Jean Love Beach, soleil sur la plage.
Salut tout le monde.
T'as passé un bon week-end ?
Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre.
20 ans, que peut changer, Tony ?
Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça ? Et tu as besoin de moi.
Elle donne des cours de danse à Paris.
Salut, je suis ton père, je suis parti à 20 ans. Elle sait même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse.
Peut-être à danser la rumba.
La rumba, ça se danse pas avec la tête.
Attitude.
Allez, on y revient sur notre spécial Rumba la vie. Franck Dubosc et Luna Espinosa sont avec nous aujourd'hui. Alors moi, j'avais découvert Luna dans les Bracelets Rouges, hein, évidemment, et on te suit, Luna, depuis. Quand tu as su que tu allais jouer la fille de Franck Dubosc, là, tu te dis quoi dans ta tête à un moment donné?
Je me dis, va falloir que je travaille le rôle. Et puis j'étais très contente de pouvoir travailler avec lui, et parce qu'on avait, on s'était beaucoup vu avant, et j'avais vu un peu la façon de travailler, et c'était une manière qui me plaisait beaucoup.
Il est comment Franck, justement, en tant que réalisateur?
Il est très pointilleux, il sait ce qu'il veut, et on réfléchit beaucoup, et on parle du rôle, et ça, c'est incroyable quand on peut développer un personnage.
Franck, justement, quand on est derrière et devant la caméra, comment on s'organise sur un tournage?
Bah d'abord, on est très entouré quand on réalise un film, on a toute une équipe. La première organisation, c'est de bien choisir l'équipe, c'est de bien préparer son film. Et puis je crois que la difficulté, elle est pour moi de jouer et de réaliser, donc d'aller regarder. On perd un peu de temps forcément parce qu'on est obligé d'aller voir ce qu'on a fait, mais la difficulté, elle est aussi pour les autres acteurs, parce que il faut leur laisser imaginer que quand on joue ensemble l'un en face de l'autre, c'est pas le réalisateur qui regarde, mais c'est le personnage. Et c'est vrai que c'est difficile à faire, même pour moi et même pour les autres, de sortir, parce que forcément sur ce qu'on appelle un champ contre champ, quand l'autre est filmé, moi je suis en face et je redonne des indications, donc pour l'autre il perd son partenaire tout à coup, il se retrouve en face d'un réalisateur, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi, parce qu'on dit toujours, moi on me pose la question, ou on doit poser la même question aux acteurs réalisateurs, est-ce que c'est difficile? C'est pour les autres que c'est presque plus dur. Et maintenant je fais d'ailleurs jouer les autres avant moi, pour ne pas, moi en jouant, regarder les autres comment ils me répondent. Enfin, c'est un peu complexe, mais sinon je suis jamais en train de jouer, finalement je suis en train d'étudier la scène, ou de alors qu'à un moment il faut lâcher prise et jouer vraiment le truc. Mais c'est difficile pour en face d'un acteur, c'est difficile parce que en plus j'ai écrit le texte, donc je ne le découvre pas, il faut que je le redécouvre, et pour le redécouvrir il faut écouter, mais écouter pas comme un réalisateur. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, hein, ce que je dis, mais c'est...
Tout à fait, justement. C'est ça qui est intéressant de savoir un petit peu, justement, comment ça se passe quand on est devant et derrière. C'est pas toujours évident. Très belle complicité aussi avec Jean-Pierre Darroussin. Dans ce film, il y a Marie-Vincent, Michel Houellebecq. Alors là, franchement, par contre, un médecin comme ça, j'en veux pas à moi. Clairement.
C'est pour ça que je vais donner le rôle du médecin. Parce que je savais que la première phrase, c'était rassurez-vous, c'est moi qui vous ai opéré, tout va bien. Donc je me suis dit, avec Michel Houellebecq, ça passe tout seul comme en comédie. Il m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Son agent disait, c'est un comique involontaire. Je crois pas qu'il soit si involontaire que ça. Je crois qu'il sait très bien ce qu'il fait. En tout cas, c'est un très bon élève. On avait fait une lecture, il savait son texte déjà. Sous ses allures de droupie, comme ça, il est très alerte et il sait très bien ce qu'il fait.
Comme quoi, c'est préparé quand même tout ça. Luna, c'est quoi ton meilleur souvenir de tournage?
Peut-être, je dirais la fin, quand on tournait les scènes dans le film qui se passe à Blackpool. Et peut-être aussi le début du tournage, quand on a tourné, qui est la fin, le mariage. Voilà, c'était très beau, c'était impressionnant. Puis les scènes de danse, certaines scènes avec Franck aussi. Et en fait, il y a beaucoup de scènes que j'ai bien aimées.
Franck, meilleur souvenir de tournage?
Moi, je pense que j'aime beaucoup Blackpool aussi, quand on tourne à Blackpool, parce qu'on a tourné Blackpool à Prague pour des raisons de Covid et de fermeture de l'Angleterre. Donc, on avait tout préparé en Angleterre, mais on n'a pas pu tourner en Angleterre. Parce que c'était Prague, et puis parce que tout le monde debout, j'avais tourné à Prague aussi. Donc, il y avait comme une petite note à chaque fois que je tourne un film, d'avoir ce petit moment à Prague, tourner là-bas. C'est ce moment-là. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est la préparation. C'est l'équipe. Moi, j'aime tout le moment dans la réalisation. J'aime tous les moments. Tous les moments me plaisent. Oui, il y a un moment que j'aime beaucoup. C'était regarder Luna qui chante dans le bar. Je trouvais ça formidable. Je la trouvais dans une émotion. Voilà. Ça, c'est un moment. Et là, comme elle chante. Moi, je suis censé la regarder, mais quand on l'a filmé, elle, je n'étais que réalisateur. Et j'adorais ce moment en tant que spectateur.
Donc bravo en tout cas à tous les deux. Rumba la vie, c'est au cinéma, ça vous appartient à vous public maintenant. Hein, c'est pas pour toi public, là c'est pour vous public.
Public, ouais, pour vous public, ouais, tout à fait. Maintenant, voilà, j'espère que ceux qui ont envie de le voir pourront aller le voir et voilà, et j'espère que le maximum de gens auront envie. En tout cas, moi je suis très content et très fier de ce film.
Et ben moi aussi je suis très fier et j'ai hâte que ceux qui veulent voir le film le découvrent. Voilà.
Merci à tous les deux, merci Luna, merci Franck d'avoir démarré cette saison avec nous.
Merci beaucoup.
À très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir de recevoir les équipes des films La Page Blanche de Muriel Magellan et également La Dégustation d'Yvan Calbera, qui aura également plein de surprises avec Marie Gillin et Andrea Bescon qui sont avec nous pour la sortie du téléfilm À la Folie, diffusé sur M6. Et il y aura évidemment plein d'autres surprises.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram, applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale. Un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.